Mais nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'Apocalypse au chapitre 17 et lire les versets 1 à 6. Apocalypse 17, les versets 1 à 6. Et donc voici ce que dit la parole de Dieu. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, « Viens !» Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à la débauche, et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Jean, donc, je vous rappelle, était sur l'île de Patmos quand il écrit cette lettre. Et à plusieurs reprises, dans le livre de l'Apocalypse, il nous dit qu'il est emmené au ciel en vision pour voir, pour recevoir, hein, en quelque sorte, un tour guidé de l'histoire de l'Église. Et très souvent, il est escorté par des anges. Par exemple, au chapitre 1er, les versets 9 à 10, Jean nous dit qu'il a été saisi par l'Esprit au jour du Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ lui est apparu dans sa gloire, avec donc le message qu'il devait transmettre à l'Église. Au chapitre 4, Jean reçoit un nouvel appel, Jean, et Apocalypse 4, verset 2, nous dit aussitôt, je fus saisi par l'Esprit. Et Jean a vu le trône de Dieu. Et il a vu le Seigneur Jésus ouvrir les sept sceaux, faire retentir les sept trompettes, verser les sept coupes de la colère de Dieu, parce que le Seigneur Jésus-Christ a été trouvé digne de le faire. Ça, c'était les chapitres 4 à 16. Maintenant, ici, au verset 3, nous lisons que Jean est à nouveau transporté en esprit. Et là, il voit la grande prostituée de ce monde. Il y aura une quatrième occasion, au chapitre 21, où Jean est transporté et il est amené à voir l'opposé de la prostituée, c'est-à-dire l'Église, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il y a ces quatre occasions où Jean nous dit qu'il est transporté au ciel. Il reçoit ces visions qu'il doit ensuite retransmettre à l'Église. Il reçoit les messages dont l'Église a besoin et il les retransmet, il les donne à l'Église. Il voit le Seigneur Jésus-Christ dans sa gloire en tant que souverain. Il voit l'histoire sous le contrôle souverain du Seigneur Jésus-Christ. Et il voit maintenant la vision du monde comme dans sa décadence, une vision que nous devons avoir du monde. Nous devons voir le monde tel qu'il est. Et puis ensuite, il aura la vision réjouissante de l'Église dans toute sa beauté, l'Église qui est préparée pour passer l'éternité avec son époux, le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce chapitre 17 commence une nouvelle section, la sixième section de ce livre, et le guide est un ange, un des sept anges qui ont versé les coupes de la colère de Dieu que nous avons vu dans la section précédente. C'est quelque chose d'assez intéressant à remarquer ici, à noter, c'est qu'il y a cet enchevêtrement dans l'organisation du livre. On a dit que le livre est coupé en sept sections, et donc nous abordons la sixième. Et on vient de dire qu'il y a quatre occasions où Jean est transporté dans le ciel pour voir ces choses, pour avoir le message qu'il doit retransmettre à l'Église. Il y a cet enchevêtrement. Et cette nouvelle section, donc, qui couvre toute l'histoire de l'Église, avec l'accent, bien sûr, qui est mis sur les choses de la fin, puisque nous sommes dans la sixième section, nous avons dit qu'au fur et à mesure que nous avançons, le curseur, lui aussi, il se concentre, il se déplace sur les choses de la fin. Et le guide est un ange. Et pour certains, ça pose un problème. Ils pensent que parce que l'ange est un des sept anges qui a versé les coupes de la colère de Dieu, cela veut dire que cette section, en fait, est une suite chronologique de la section précédente. Mais ce n'est pas le cas. Le guide de cette section est un des anges qui a versé les coupes de la colère de Dieu, cela veut simplement montrer qu'il y a une continuité. Il y a une continuité. C'est-à-dire que on va encore parler de la colère de Dieu. On va encore parler de cette colère que Dieu déverse de ce monde. Et en fait, ce que nous avons ici au chapitre 17, c'est le développement de ce que nous avons vu au chapitre 16. Au chapitre 16, nous avons vu les sept coupes de la colère de Dieu qui ont été déversées, et ça couvre toute l'histoire. Là, nous avons le développement, le détail. Jean nous donne, Jean reçoit et nous transmet cette vision de plus détaillée. Verset 1 donc commence, « Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. » C'est le thème de cette sixième section. Mais avant que Dieu n'apporte une fin définitive, un jugement définitif sur cette prostituée Babylone, avant qu'il ne la juge, Jean doit la voir pour ce qu'elle est. Le jugement est encore à venir, mais Jean et les croyants, et nous avons encore affaire avec cette prostituée, avec ce monde. Et donc ce passage nous est donné pour qu'on puisse le voir, voir ce monde, voir cette prostituée comme elle est réellement. Voir la culture, la société dans laquelle nous vivons, voir ce qu'elle est réellement. Et elle nous est décrite comme dans cette image de la prostituée. Elle s'est détournée de la vertu que Dieu lui avait donnée. Et elle utilise la sensualité, la tentation pour conduire des multitudes, non seulement dans le péché, mais à travers le péché, dans l'idolâtrie et vers sa destruction. Une prostituée, sans aller dans les détails, c'est une femme qui utilise son corps pour attirer les hommes et les conduire à leur destruction. Et c'est une image qui décrit ce monde dans lequel nous vivons. Et ce passage nous dit cinq choses au sujet de ce monde. Il nous parle de la localisation de cette prostituée, de sa monture, de sa parure, de sa coupe et de son nom. Tout d'abord, la localisation de cette prostituée. Le verset 3 nous dit « Il me transporta en esprit dans un désert ». La Bible utilise l'image du désert dans plusieurs cas. C'est par exemple pour décrire les conséquences du péché. Nous étions à l'origine placés dans un jardin, le jardin d'Éden. Mais Dieu a chassé Adam et Ève hors du jardin. Le Seigneur Jésus-Christ a été emmené dans le désert pour être tenté par Satan, Matthieu 4. Le prophète Ésaïe va décrire le désert comme le lieu par lequel les envahisseurs vont venir pour détruire Babylone. Ésaïe 21, verset 1. Et le chapitre 18 d'Apocalypse, par exemple, au verset 2, nous dira que Babylone va devenir une désolation. Et aujourd'hui, comme au temps de l'apôtre Jean, la ville de Babylone se trouve sous le sable, sous le désert. C'est une image de la destinée de ce monde dans le jugement de Dieu. Mais nous avons aussi vu, plus tôt en Apocalypse, que Dieu a envoyé l'Église dans le désert, afin qu'il y trouve un refuge pendant la tribulation. C'est Apocalypse 12, verset 6. Et l'idée ici, c'est que la grande ville, Babylone, est ce lieu où se trouve l'iniquité. Mais en sortant de la ville, en allant dans le désert, on peut regarder à la ville sans tomber dans ses pièges. Et c'est souvent ce qui se passe. On va prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ et on va être rejeté. Le monde va nous exclure. Le monde va nous persécuter. On a lu le chapitre en Matthieu 5, tout le verset en Matthieu 5 tout à l'heure. Personne ne veut devenir notre ami. Mais Dieu transforme cela en un lieu de refuge. Il nous emmène dans un désert, mais cela est un refuge pour nous, parce que nous ne sommes plus soumis aux séductions de ce monde, aux tentations de ce monde. Pour Jean et pour l'Église, le désert, même si c'est un lieu de souffrance, c'est aussi un lieu de sécurité. Et Jean voit, il est emmené dans le désert, et de là, il voit la femme assise sur une bête écarlate. Donc on voit la monture, deuxième point. Le verset 3. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et l'image, en fait, le but de cette image, c'est que ce soit une image facilement, qu'on puisse se rappeler assez facilement. Si quelqu'un nous demande, mais que dit la Bible au sujet de ce monde? Est-ce que vous avez une image que la Bible utilise pour décrire ce monde? L'image, elle est là. C'est une prostituée assise sur une bête écarlate. Et c'est ainsi que nous devons voir la réalité. Nous avons l'image de ce monde matérialiste. Cette bête est la bête qui monte de la mer, la bête que le monde, que le dragon a appelée. C'est le tyran qui est animé de l'esprit de l'Antichrist. Et la description que nous avons en Apocalypse 13, verset 1, est très très similaire par rapport de ce passage, de cette description ici. Apocalypse 13, verset 1, « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » Et cela correspond avec la vision de Daniel 7, que nous avons déjà vue. La vision des bêtes qui représentaient les empires tyranniques qui allaient se succéder. Et quand on additionne les quatre bêtes, ou les têtes qui sont sur les quatre bêtes en Daniel 7, on a 7 têtes. Et ici, on a 7 têtes en Apocalypse 17. Et la bête, ici, nous le disons, a 10 cornes. Et cela correspond à la 4e bête de Daniel 7, c'est-à-dire l'Empire romain. Mais tout cela est symbolique. Tout cela est symbolique de cette puissance persécutrice, cette puissance qui règne par la force, qui est l'ennemi de Christ, qui est l'ennemi de son Église, et qui se traduit dans l'histoire de différentes manières, mais en particulier ici, par la puissance de l'Empire romain. La couleur écarlate de la bête l'identifie aussi avec Satan. C'est en fait le jeu de couleurs de son équipe. Le dragon est rouge, la bête est écarlate. Ça reflète la persécution sanglante des croyants de l'Église. et les noms de blasphème reflètent cette demande de la part de la bête d'être adorée, de recevoir l'adoration. C'était le danger, un danger réel pour les lecteurs de l'apôtre Jean au 1er siècle. La bête était représentée par l'empereur Domitien. Et Domitien avait fait des statues à son effigie et il exigeait d'être adoré de la part des habitants, de ceux qui habitaient dans l'Empire. C'était la bête de l'époque qui exigeait d'être adorée comme Dieu et qui se moquait de la vraie foi, qui persécutait tous ceux qui ne l'adoraient pas. Et Domitien et d'autres empereurs qui l'ont suivi ont persécuté les croyants. Et ici, donc, nous avons la prostituée qui est assise sur la bête. Et donc, cela nous montre sous forme de vision. Ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a dans ce monde une alliance entre l'immoralité, la débauche d'un côté et la tyrannie de l'autre. Les deux ont le même but, les deux travaillent ensemble dans ce monde. Comme le dit le verset 2, c'est avec elle, avec cette prostituée, que les rois de la terre se sont livrés à la débauche. Et c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont enivrés. Certaines personnes aujourd'hui peuvent être intimidées par les puissances de ce monde. Et elles se contentent de les suivre, même si cela les emmène dans l'immoralité. Il y a d'autres personnes, au contraire, qui sont séduites par les plaisirs du péché, par l'immoralité. Et elles deviennent sourdes devant la tyrannie du gouvernement. Elles deviennent plus tolérantes au mal qui existe autour d'elles. Très souvent, la tyrannie va encourager l'immoralité et l'immoralité va encourager l'acceptation de la tyrannie. L'infâme, la prostituée sur sa monture. Troisième point, sa parure. Le verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle était vêtue, nous dit un commentateur, avec faste, couverte de bijoux. Elle était parée d'or et vêtue de pourpre et d'écarlate, car elle siège en reine. Et la première chose que l'on peut remarquer de cette description, c'est le coût de ces habits. Les teintes, à l'époque, les teintes de pourpre et écarlate étaient très chères. Et la teinte pourpre en particulier était le symbole de la royauté ou de l'aristocratie. Et en plus, on lit que cette femme utilise une parure d'or, de pierres précieuses et de perles pour mettre en valeur sa beauté, mais c'est une beauté charnelle, sensuelle. Et on voit cela aujourd'hui, partout dans le monde. On essaye de nous faire croire avec des images retravaillées, avec des logiciels photos, d'une beauté parfaite, que la beauté parfaite existe. On voit des modèles qui sont plus vrais que nature et qui apparaissent avec ce message qu'avec la beauté vient la richesse. Cette femme, nous dit un autre commentateur, est le symbole d'une société qui maintient la prospérité du commerce économique. Mais sous son charme extérieur, cette femme est une prostituée qui séduit les hommes à commettre l'idolâtrie et à l'adorer elle. Et c'est notre monde, pas seulement notre monde d'aujourd'hui, c'était aussi vrai au temps de l'apôtre Jean. Les sociétés font la promotion de leur richesse et ils disent que ça sert de justification pour leur immoralité. Et on voit par exemple cela dans des pays comme des pays en Afrique, certains que j'ai pu visiter récemment. Et on voit des publicités qui viennent de l'Occident. Et le message de ces publicités se résume en trois mots. Sensualité, richesse, progrès. Et ces publicités parlent de l'avancement de la race humaine, de l'humanisme séculier, mais par la débauche. Par la débauche. La richesse est utilisée pour encourager des bénéfices supposés de l'impiété. Mais cette dépravation séduisante de la prostituée est en contraste total avec la véritable beauté, en particulier la beauté de l'Église, la beauté de l'épouse de Christ, telle que nous la verrons plus tard dans l'Apocalypse. Apocalypse 12 nous a décrite une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle reflète la gloire, elle reflète la sainteté de Dieu, la majesté de Dieu. Plus tard, nous le verrons en Apocalypse 21, l'épouse de Christ sera décrite comme étant belle, tellement belle qu'elle dépasse de loin la contrefaçon de la prostituée que nous avons ici en Apocalypse 17. Elle dépasse de loin la beauté de ce monde. Elle possède la gloire de Dieu. Apocalypse 21, verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Babylone, la prostituée, s'habille pour séduire parce qu'elle veut attraper, elle veut attirer, elle veut... elle veut attraper les hommes. Mais sa beauté n'est qu'une beauté d'apparence. Et la parole de Dieu nous met en garde, elle nous enseigne que nous ne devons pas suivre cet exemple. Nous ne devons pas suivre ce monde. L'apôtre Pierre, par exemple, en 1 Pierre 3, verset 4, il s'adresse aux femmes en disant « Ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. » Et le conseil est donné d'une part aux femmes croyantes de gérer leur beauté avec modestie pour l'édification du prochain, pour la gloire de Dieu, de rechercher une beauté intérieure. Mais le conseil est aussi donné aux hommes, qu'ils soient remplis de sagesse, qu'ils évitent les femmes dont la beauté n'est qu'extérieure, n'est qu'apparence, parce qu'une beauté qui n'est seulement extérieure est très souvent un masque pour cacher le vide de l'intérieur, pour cacher le manque de caractère. Et donc le conseil est donné aux deux. Ne suivons pas l'exemple du monde qui, lui, n'est qu'extérieur, qui, lui, n'est qu'apparence, qui, lui, n'est que là pour séduire, mais c'est trompeur. La parure de sa femme, de cette femme, est là pour tromper. Ensuite, nous avons la coupe d'or, quatrièmement. Verset 4, elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abomination et des impuretés de sa prostitution. La coupe d'or, encore une fois, suggère la richesse, suggère quelque chose de valeur. Et on s'attend à trouver un breuvage, une boisson d'une grande valeur dans une telle coupe. Mais la réalité, c'est que le breuvage est du poison. Le contenu de cette coupe est un contenu qui va appauvrir l'âme, qui va détruire, qui va jeter la disgrâce sur l'âme qui boit. de cette coupe. Il y a deux mots, il y a le mot abomination, et cela décrit les choses que Dieu hait tout particulièrement, des choses qui lui sont une offense. La Bible utilise ce terme, par exemple, pour parler de la fausse adoration, de l'idolâtrie, pour parler de pratiques occultes, pour parler de perversion sexuelle. C'est une abomination aux yeux de Dieu. Mais il parle aussi d'impureté, et ça c'est la corruption en général, toutes sortes de corruption. Et le point qui est mis ici en avant, c'est que la prostituée non seulement cherche à attraper l'homme dans son péché, mais que tout cela est enivrant. Et cela va conduire à l'idolâtrie à la place de la foi en Dieu. Et un commentateur le résume très bien. Il dit de tout ce que le monde utilise pour détourner les croyants de leur Dieu se retrouve dans cette coupe. La littérature pornographique, les sports prenants auxquels on sacrifie tout, le luxe, la célébrité, le pouvoir mondain, la convoitise de la chair, etc. Ça peut être des choses légitimes, mais des choses qui prennent toute la place. Chacun peut établir sa propre liste. Elle inclut des choses qui sont mauvaises en elles-mêmes et d'autres qui le deviennent parce qu'on a transformé le moyen en fin. Des choses qui sont légitimes, qui sont des moyens, on les transforme en fin. Et cela nous détourne de Dieu. Ce sont ces choses qui sont dans la coupe. Cette coupe qui est donnée au monde pour l'empoisonner, pour le corrompre. Un autre commentateur dit ceci, « Cela semble si fabuleux. Tout ce que le monde peut m'offrir est énorme. Mais si je regarde à ce qui est à l'intérieur de la coupe, elle est remplie d'abomination et d'impureté. » Et sous combien de formes cette coupe peut-elle se présenter ? Aujourd'hui, elle se présente sous toutes ses formes, sous toutes les formes qu'on peut imaginer. Ça peut être le divertissement, quel qu'il soit. Ça peut être le dernier modèle de smartphone ou de tablette qui va prendre tout notre temps. On va être tellement pris par les applications qui, certaines, sont légitimes. Mais cela va prendre tout notre temps. Cela nous détourne de ce qui est essentiel, de ce qui est important. Cela va nous empoisonner. C'est tout autour de nous. Cette coupe que tient la prostituée, et cette prostituée elle-même est séduisante. Elle est là pour séduire. Ce monde, il est là pour séduire. Et c'est difficile. Il faut le reconnaître. C'est difficile, c'est séduisant. Mais c'est trompeur. C'est trompeur. C'est du poison. Et cette prostituée veut que nous buvions de sa coupe pour notre destruction. Et ce monde, il est là. Il ne cherche pas, même s'il prétend chercher, affirmer notre bien. Et nous avons vu tout à l'heure avec la leçon pour les enfants. Le monde prétend nous apporter les sources, la clé du bonheur. Mais tout cela est trompeur. Tout cela est trompeur. C'est du poison. C'est du poison. Le monde, lui, ne cherche que notre destruction. Ce système du monde ne cherche que notre destruction. Et puis, cinquièmement, le nom de cette prostituée, son nom mystérieux. Verset 5, « Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. » D'après les commentateurs, à Rome, les prostituées, elles avaient un bandeau sur le front, sur lequel était écrit leur nom. Et le nom ici est Babylone la Grande. C'est le camp de base de Satan. Après le déluge, les incrédules sont descendus dans la plaine de Shinéar et ils ont bâti la ville de l'humanisme, Babel. Babylone, Genèse 11. Une opposition contre Dieu. Et Dieu a jugé en apportant la confusion des langages. Babylone a toujours été la source de séduction, la source de violence. C'est l'armée babylonienne qui a détruit Jérusalem sous le roi Nebuchadnezzar. C'est vers Babylone que Dieu a envoyé son peuple en exil pour le punir d'avoir adoré les idoles. C'est Nebuchadnezzar lui-même qui a inventé cette expression « Babylone la Grande ». Daniel 4, verset 30. « N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâti comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» Babylone la Grande. Et j'en précise que c'est un mystère. Et il veut souligner ici le symbolisme de ce nom. Le symbole des royaumes oppressants de ce monde. C'est des royaumes qui méprisent Dieu, qui s'opposent à Christ, qui ne veulent pas que Christ règne. Pourtant, il règne. Il règne sur l'histoire, et comme nous l'avons déjà vu. Il règne sur toute chose. Mais ce monde ne le veut pas. Les puissances de ce monde ne le veulent pas, ne veulent pas. Et tout cela est personnifié dans le nom de cette prostituée qui vend son corps, qui donne naissance à l'abomination. Elle est appelée la mère des prostituées et des abominations de la terre. C'est déjà suffisamment terrible qu'elle soit une prostituée. Mais le verset 2 nous dit que les rois de la terre se sont livrés à la débauche avec elle. Et elle porte une postérité de mort. Elle les nourrit, elle les envoie sur toute la terre, elle couvre toute la terre. Un commentateur le résume en disant « C'est la mère supérieure de la prêtrise de ceux qui commettent la prostitution spirituelle en adorant la bête. » C'est la mère supérieure de la prêtrise de ceux qui commettent la prostitution spirituelle en adorant la bête. Pas besoin de forcer l'imagination pour voir que cela décrit notre société. Cela décrivait la société de l'apôtre Jean, mais cela décrit notre société au XXIe siècle. Et on pense à tous ces jeunes, en particulier les jeunes filles, qui adoptent les valeurs de ce monde, qui pensent que ce qui compte le plus, c'est l'attraction physique, le pouvoir d'attirer. Mais, comme j'ai dit, le message de ce monde est trompeur, c'est un mensonge. Mais combien de jeunes grandissent en croyant cela? Combien de jeunes tombent dans ce piège et que ce soit les filles d'un côté, mais les garçons de l'autre, qui pensent que la seule chose qui compte, c'est d'être attiré par la beauté physique. Mais voilà, toutes ces choses sont des abominations et cela entraîne le monde dans sa destruction. Et nous devons dire non. Nous devons dire non à cette prostituée, à ce monde, à sa coupe, parce que nous la voyons telle qu'elle est, telle que la parole de Dieu nous décrit. Nous voulons être beaux aux yeux de Dieu. Être beau aux yeux de Dieu, c'est avoir la beauté de la sainteté, être transformé à l'image de Christ, être séparé de ce monde, être séparé de sa corruption. Nous devons quand même souligner que nous ne sommes pas anti-monde. Il y a de bonnes choses dans ce monde. On peut apprécier les bonnes choses dans le sport, l'esprit d'équipe, l'esprit de sacrifice. On peut aimer une belle musique. On ne doit pas simplement apprécier les choses parce que elles ont été faites par un autre chrétien. Non. Tout ce qui est fait et qui porte la marque du génie de Dieu est digne d'être apprécié. Et nous apprécions ces choses. Ce sont des choses belles que Dieu accomplit et qu'il peut faire même par le biais de ses créatures. Et nous pouvons apprécier ces choses. Mais nous voyons le système de ce monde, le gouvernement de ce monde. Et nous devons nous opposer à ce gouvernement, au gouvernement de ce monde, à ce système qui est contre Dieu, contre l'Évangile, opposé à Dieu. Ce système, ce monde qui veut nous éloigner, qui est-elle une prostituée qui veut séduire? Et il faut l'avouer, ce monde est séduisant. Il y a énormément de choses qui séduisent. Mais tout cela est trompeur. Tout cela est trompeur. Cette femme prostituée est assise sur la bête. La coupe est pleine d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Son but n'est que de détruire, n'est que de enivrer les hommes et de les amener à leur destruction. Et nous devons voir ce monde tel qu'il est. Oui, il y a des bonnes choses dedans. Il y a des bonnes choses. Dieu encore agit encore au travers de ses créatures. Et nous pouvons apprécier ces choses. Mais nous devons nous garder et veiller à ne pas être séduits par ce monde. Ce monde qui ne cherche qu'à détruire. Nous reviendrons sur ce passage pour développer ce point et répondre à cette question plus en détail. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette prostituée? Nous verrons cela plus en détail la prochaine fois. Mais voilà ce que nous dit déjà la première partie, voilà ce que nous dit l'apôtre Jean nous donne comme description de ce monde dans lequel nous vivons, de ce monde, de ce système du monde, qu'il est séduisant, mais qu'il est trompeur. Il est très séduisant, mais qu'il est là que pour détruire. Que Dieu donc nous aide à voir ce monde pour ce qu'il est et qu'il nous apprenne à voir et à rejeter les séductions de ce monde et à lever les yeux vers le Seigneur Jésus-Christ et à nous attendre à lui et à être transformé à son image afin d'être rendu beau avec la sainteté, être séduisant, non pas de manière extérieure comme le monde, mais rempli de la vie de Christ, et d'être attirant de cette manière-là, avec cette beauté intérieure, cette vie de Christ que Christ donne à ceux qui lui appartiennent. Que Dieu donc nous aide à voir cela, et qui nous garde d'être séduits par ce monde. Amen.